Bon, je vais dire quelques mots. C'est un grand plaisir, un grand honneur de recevoir Ira Novák. Alors, Ira Novák est directeur de recherche au L2C2 à Lyon, le laboratoire Langage, Cerveau et Cognition, qui est une des composantes de l'ancien, enfin toujours Institut des sciences cognitives de Lyon, une des grandes créations de feu Marc Genereau. Ira est dans une équipe, il a dirigé d'ailleurs le L2C2 à un certain moment, pendant presque 5 ans. Il est à l'heure actuelle dans une équipe à l'intérieur spécialisée dans le développement, le raisonnement et la pragmatique. Il est de nationalité américaine. Tu m'as dit tout à l'heure que maintenant tu essayais d'obtenir la naturalisation, c'est ça ? Mais il est en France depuis presque 20 ans, 1995 à peu près. Hein. Ses recherches portent sur la compréhension, éventuellement la production du langage, et plus exactement sur ce qu'on appelle la pragmatique. C'est-à-dire que on peut s'intéresser à la compréhension en termes simplement de décodage, perception des sons de sa langue, compréhension de chacun des mots, intégration des mots en fonction de la grammaire de sa langue. Mais là, on reste sur le sens littéral. Ce qui va intéresser plus particulièrement Ira Novák, c'est dès que on est un peu au-delà du sens littéral, et en fait c'est le cas le plus fréquent, on doit repérer l'intention, le sens sous-jacent, qui peut parfois d'ailleurs être totalement contradictoire avec le sens littéral. Je ne sais pas si tu veux en parler, c'est le cas de l'ironie. On va dire, ah, cette présentation était merveilleuse, alors qu'on sort très déçu, ce qui ne va pas être le cas, bien évidemment, ce soir. En tout cas, dans bien des cas, on a besoin d'aller repérer l'intention de communication en fonction de la situation et du contexte où l'énoncé est produit. C'est là que la pragmatique va intervenir. Alors, il s'est intéressé en particulier à la compréhension de toute une série de petits mots très fréquents qu'on trouve dans toutes les langues et qui, à mes yeux, là, tu ne vas peut-être pas être d'accord, mais permettent de repérer la position, la perspective qu'adopte le locuteur par rapport à ce qu'il se représente. Exemple, bien, les connecteurs qui font la connexion entre les propositions, parce que, si, donc, etc., et qui indiquent comment on perçoit les relations de conséquences, de causalité entre les propositions. Autre exemple, les modaux, pouvoir, devoir, etc. Les quantifieurs, très peu. Voilà, tous ces petits mots hyper fréquents et qui vont nous informer sur la manière dont une personne se représente, ce qu'elle dit et le monde qui l'entoure. Pour terminer cette présentation, Ira Novák, bon, qui est l'auteur maintenant près d'une cinquantaine de publications dans les revues les plus prestigieuses du domaine, qui d'ailleurs est intervenu dans les comités éditoriaux de revues comme Journal of Semantics, Cognition. Et Ira Novák, je crois que si on doit retenir une chose importante, y compris pour comprendre ce qu'il va nous présenter, c'est qu'il adopte une approche expérimentale. C'est l'un des fondateurs de la pragmatique expérimentale, c'est-à-dire que son enquête va être faite à partir d'hypothèses formulées qu'il tente de vérifier dans des conditions qui peuvent paraître parfois artificielles, mais dont on suppose qu'elles sont généralisables. Voilà, et d'autre part, c'est d'ailleurs lié à cet intitulé L2C2 où il y a cerveau à l'intérieur, il s'intéresse de près au rôle du cerveau dans la cognition, à ce qu'on appelle l'approche neuropsychologique. Voilà, c'est un résumé tout à fait mauvais, j'en suis désolé, mais c'est juste pour présenter, introduire ton propos. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis flatté par la connaissance du domaine. Peut-être je peux m'arrêter là, parce que tu as tout expliqué. Bon, comme vous allez noter, vous avez noté, j'ai un petit accent, bon, un fort accent de temps en temps. Et vous allez voir que je fais... Bon, mes enfants me taquinent souvent parce que j'ai fait des erreurs de genre. Et de temps en temps, je trouve un mot qui peut-être est un faux ami. Mais en général, je suis compréhensible. Mais en plus, ce qui est important, c'est que le but, l'histoire que je raconte ce soir, c'est pour dire que ce que compte, ce n'est pas uniquement les mots dans une phrase, c'est l'intention derrière. Et que ce qu'on cherche de rattraper au moment de la communication, ce n'est pas forcément de comprendre ce que quelqu'un dit mot par mot, mais plutôt, pas juste pourquoi on a choisi certains mots, mais quelle était l'intention qui était portée par l'énoncé. Et en fait, j'ai beaucoup d'exemples, hein, et j'espère que si je présente mal un des exemples, il y aura quand même des autres. Donc j'espère dans l'ensemble, vous allez voir qu'il y a des mécanismes importants pour se faire comprendre, et ce n'est pas uniquement le sens des mots ou le sens littéral dans les phrases. Donc, je présente deux anciens, bon, le plus récent doctorant qui travaille avec moi, et je présente pas mal de leur boulot. Nicolas est actuellement à l'Université de Pennsylvanie, University of Pennsylvania, et Tiffany vient de terminer en décembre, et elle est actuellement à Budapest. Tous les deux comme postdoc. Donc, je commence avec la vision classique. Bon, si on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est la communication, ça c'est ce qu'on trouve comme réponse classique. Ça vient d'un blog de 2007, je pense. Et ce qui est écrit, c'est... bon, en fait, je vais marcher un peu, j'ai l'habitude de... Donc, bon, ça c'est ce qu'on va trouver classiquement. En communication humaine, l'émetteur et la bouche de locuteur, sa voix, le langage gestuel, les sons et on sent le signal. Et c'est traduit de l'anglais d'ailleurs. Et les oreilles de l'autre personne en sont le transmetteur. Le locuteur envoie un message à l'autre personne, le récepteur. Ce message encodé et envoyé, pendant la livraison de ce message, il y a des distorsions telles que le bruit ou l'environnement qui pourrait mener à une miscommunication. Pendant que le message est reçu par le récepteur, il ou elle doit le décoder. L'envoyeur et le récepteur ont la responsabilité d'assurer que la communication est réussie. Donc, ça, c'est l'image qu'on peut imaginer, qu'il y a quelqu'un parle, il y a des mots qui se transmettent, c'est codé, et puis ça se transmet, et le récepteur doit décoder. Mais... Et on peut le représenter comme ça. Mais en fait, ça ne capte pas beaucoup de choses. Par exemple, on va voir ce soir qu'il y a plein d'exemples qui montrent que c'est pas... Il y a beaucoup plus qui se passe pendant la communication. Et c'est à grâce à... Bon, je vais me mettre ici peut-être. À Paul Grice, un philosophe... anglais qui a proposé un autre moyen de voir la communication à travers de ses travaux, en fait, parce qu'il a étudié le langage et l'a vu, en fait, pour des choses importantes comme les mots logiques ou les mots connecteurs, etc., que ça ne suffit pas d'avoir une compréhension formelle de termes, il faut comprendre la manière que les gens utilisent certains termes. Donc, lui, il a dit que, il n'a pas dit ça mot par mot, mais il a dit que le succès de la communication repose sur l'attente que notre interlocuteur soit coopératif et qu'il respecte un certain nombre de règles pour réaliser son intention communicative. Donc, il a fait une distinction entre les mots présentés et l'intention derrière. Donc, d'après son modèle, si on dit « il fait froid », l'écouteur devrait se penser qu'en disant cela, son intention et que je comprenne qu'il fait froid, ça c'est pardon, ça c'est si on n'a pas eu le modèle inférentiel. Donc imaginez, bon, ignorez ça pour l'instant, mais d'après la version code, on dit il fait froid et on fait une représentation de fait froid. Mais d'après lui, il faut aller plus loin. Parce que peut-être cette personne a dit il fait froid parce que elle veut rentrer ou elle veut juste écrire la situation ou bien c'est pour dire à son interlocuteur quelque chose d'autre. Bon, c'est temps pour rentrer ou bien j'ai marre, je veux rentrer, etc. Donc il y a plein de choses qui pourraient être intentionnées par cette petite phrase il fait froid. Et donc peut-être dans ce cas-là, il faut reconnaître qu'elle veut juste rentrer et être à côté de feu. Et donc ça, bon, en fait, le modèle initial que j'ai présenté, ça s'appelle le modèle de Shannon et Weber, qui vient en fait avec cet âge de computation, parce qu'on imagine que comme un ordinateur, on peut tout coder, transmettre et tout est réglé, mais ça marche pas comme ça. Donc c'est ça que disait Grice, il faut rejeter cette approche et penser plutôt à les intentions derrière. Donc, je vais pas, pour économiser un peu de temps, je vais passer sur ça parce que c'est redondant. Mais on peut voir comment, avec cette approche, que les mots qui sont partagés ne sont pas suffisants pour se faire comprendre. Donc, c'est pourquoi qu'une des idées fondamentales de la théorie pragmatique est que le sens encodé par les mots d'un énoncé ne suffit jamais à déterminer le message que le locuteur vise à communiquer. Il y a toujours un underdetermination, on dit en anglais, qu'on ne peut pas tout comprendre juste par les mots. OK, donc, c'est maintenant que je vais présenter une série d'exemples basés sur des études expérimentales qui montrent ça, mais aussi une approche qui est la suite de Grice. Ce n'est pas forcément Grice, le détail de Grice qui a gagné, si vous voulez, mais ces principes restent quand même très pertinents. Donc, une des premières études que j'ai fait sur ça, en fait, celui qui a ouvert les fenêtres vers l'approche gricienne, ça vient en fait de la première, dans la première page de livre de Grice. Elle a parlé de divergence entre ce qu'elle appelle formal devices, formalités qui représentent négation et conjonction, disjonction, etc. La manière que c'est utilisé dans la logique n'est pas la même qu'on voit dans la vie quotidienne. Donc, il dit, je traduis, il existe des divergences en signification entre les indications formelles, donc ne pas, et, ou, implication, etc., d'un côté, et leurs analogues en langage naturel, de l'autre, ne pas, et, ou, si, alors, tout, etc. Donc, voyons que j'ai étudié le raisonnement dans une vie précédente. J'étais très, très intrigué par cette approche. Donc, certains exemples que Grice a présentés, qui a devenu très connu dans le domaine, c'est des choses du style X va rencontrer une femme ce soir. Pourquoi elle a dit une femme? Parce que normalement, on peut être beaucoup plus informatif. On peut dire sa femme, sa sœur, sa mère. Mais le fait qu'elle n'a pas, le locuteur n'a pas utilisé le mot il n'a pas utilisé sa femme, sœur ou mère, ça implique que c'est quelqu'un d'autre. Donc ça ouvre la porte aux autres possibilités. Puis la disjonction. Si je dis Guillaume est malade ou travaille à la maison, ça implique pas tous les deux à la fois. Mais logiquement parlant, le ou, le disjonctif, est inclusif. C'est quelque chose que tous les maîtres de logique ou tous les profs de logique expliquent à leurs étudiants, et c'est très difficile à convaincre les étudiants de ce fait, mais où c'est inclusif, et on peut, bon, il y a des arguments derrière, mais on peut aussi montrer expérimentalement, je ne vais pas rentrer dans cela aujourd'hui, que même le sens sémantique de où qui est inclusif est compris par les gens assez automatiquement, mais c'est le où exclusif qui est qui demande un peu plus d'effort. Et puis, il y a d'autres exemples. Donc, moi, j'ai inventé celui-ci. Mon fils a enlevé son pantalon et s'est mis au lit. Ça implique le « et ». Il y a un ordre temporel. Hein, parce que, mais ce n'est pas de la phrase qu'on voit ça. Le « et », c'est « A » et « B ». Ça peut être « B » et « A ». C'est possible, en fait, avec mon fils à l'époque, qu'il s'est mis au lit et puis il a enlevé son pantalon. Mais le fait qu'on le présente dans cet ordre, on imagine que c'est d'abord le pantalon et puis le lit. Et puis, il y a des tentatives de généraliser certaines de ces règles. Donc, une des idées qui vient de cette littérature, c'est le concept d'implicature scalaire. Scalaire vient de l'idée qu'on peut mettre côte à côte certains de ces termes et on peut voir que certains sont plus informatifs que les autres. Donc, tous est plus informatif que certains. Pourquoi ? Parce que si on dit tous, c'est vrai que certains est le cas. Si on dit que quelque chose est excellent, ça suit que c'est décent. Mais si la personne utilise la formule, le terme qui est plus faible, ça implique qu'on rejette le plus fort. Donc si on dit certains enfants sont dans la pièce, ça implique qu'il n'y a pas tous. Et ça s'appelle Generalized Conversational Implicature par Grice, et c'était la première chose que moi, personnellement, j'ai étudiée. Et je vais présenter ça rapidement. Et puis, la pragmatique, il faut expliquer aussi que la pragmatique que tu as super bien présentée, c'est un domaine dans la linguistique, parce que, comme François avait dit, qu'il y a les choses comme sémantique, syntaxe, phonologie, il y a plein de choses que les linguistes étudient. Mais après, il y a la pragmatique, la linguistic pragmatics, qui est la partie qui explique comment on prend une phrase ou un énoncé et se faire comprendre. Et ce qui est marrant, au moins il y a 20 ans, ce n'était pas un domaine super respecté, mais consulté par les autres linguistes. Donc, Larry Horn, qui est un pragmaticien très connu, il a dit il y a 20 ans, si un phénomène se montre trop bizarre et trop inconsistant pour être traité de manière cohérente, d'un point de vue syntaxique ou sémantique, et s'il ne semble pas suffisamment arbitraire pour le lexographe ou suffisamment phonologique pour la phonologie, alors il doit être pragmatique. Ce que signifie trop souvent qu'il ne faut pas s'en soucier. Donc, c'est pour ça que c'est souvent appelé le wastebasket de linguistique. Mais je dirais que... Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai des problèmes. Mais je dirais que depuis 20 ans, la pragmatique devient beaucoup plus respectable, si on veut. Et maintenant, on voit qu'il y a le sémanticiste qui entre dans le domaine et pense qu'ils ont des explications pour tout le phénomène que je vais présenter. Et c'est aussi la source de beaucoup d'expériences. OK, donc, je vais présenter une des premières études que j'ai fait moi, qui m'a, comme j'ai dit, ouvert des fenêtres, si vous voulez. Et c'est une tâche qui vient de raisonnement. J'étais, comme j'ai dit, dans le domaine de raisonnement. Et juste pour vous donner un peu de contexte, ce que m'a intéressé à l'époque étaient les mots modaux, comme « doit » ou « se peut », etc. Et j'ai créé ce petit paradigme où j'ai mis dans deux boîtes. Dans une, il y avait un perroquet et un ours. Bon, pas un vrai perroquet et un vrai ours, mais de petits jouets avec qui est un perroquet et un ours. Et là, il y avait un perroquet. Et j'ai dit aux enfants qui avaient de l'âge 5, 7, 9 ans, et puis les adultes, j'ai dit, en pointant vers celui-ci, tout ce que je sais, c'est que le contenu de la boîte ici est identique à ce qu'il y a dans la boîte, et puis j'ai pointé ici, ou dans cette boîte ici. Donc, certaines choses modaux sortent de cette situation. Donc, il doit y avoir un perroquet, il peut y avoir un ours, et puis il y a plein de choses négatives, on peut dire aussi que peut pas avoir un perroquet est fausse, peut pas avoir un ours est fausse, etc. Mais je vais parler juste de ces trois-là qui étaient intéressants. Donc si je dis il doit y avoir un perroquet, ça suit que c'est vrai. Il y a forcément un perroquet. Il doit y avoir un ours? Non, parce que c'est un peu trop fort. Par contre, qu'est-ce qui se passe si on dit quelque chose qui est un peu faible, hein, comme j'ai dit tout à l'heure? Il peut y avoir un perroquet. Donc on sait qu'il doit y avoir un perroquet, mais si le locuteur dit quelque chose qui est sous-informatif, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que ça est devenu intéressant. On voit, bon, d'abord, bon, je présente les choses qui sont plutôt simples. Bon, il doit y avoir un perroquet. Et on voit que même les enfants de 5 ans, ils sont très forts et ils deviennent, bon, avec l'âge, on devient encore plus fort. Donc, il doit y avoir un perroquet, ce n'est pas problématique. Mais regarde ce qui arrive avec celui qui est un peu faible. Il peut y avoir un perroquet dans la boîte. Au début, ça commence comme il doit y avoir et puis ça descend. Qui implique quoi? Qui implique qu'au début, il y a une représentation qui est adéquate pour il peut y avoir. Et puis, avec l'âge, et ça c'était l'hypothèse, et toujours l'hypothèse, c'est qu'avec l'âge, on devient plus fort, plus adapté de faire des inférences pragmatiques, où le peut pourrait impliciter pas doit. Donc avec ça, avec l'âge, où on fait un enrichissement de peut pour dire implicitement peut mais pas doit, on a une explication pour cette courbe un peu inattendue. Et au début, les gens étaient un peu sceptiques sur ça, mais il y avait depuis plein de réplications. Et puis, c'était aussi la source pour faire des autres sortes des expériences. Et c'est ça qui a créé, effectivement, la pragmatique expérimentale, parce qu'après qu'on a un phénomène expérimental, on doit l'expliquer. Et puis, il y a plein d'hypothèses, et on peut créer un forum où on peut comparer les deux avec les tests expérimental. Donc l'idée de la pragmatique expérimentale, c'est d'identifier un phénomène qui est pertinent pour un débat linguistique pragmatique, rendre opératoire des points de vue opposés et chercher à proposer des prédictions pour chaque côté. En fait, souvent, ce qu'on fait dans notre labo ou entre deux labos, c'est de faire des paris. On dit, bon, moi, je vais gagner. Bon, si je gagne, tu m'offres un bière ou quelque chose comme ça. Donc, mon point de vue était que la courbe qu'on a vue tout à l'heure, ça montre que ça prend un peu d'effort. On peut commencer avec une interprétation qui est plutôt, disons, sémantique, formelle. On peut n'implique pas de réjection de quelque chose de plus fort. Au début, peut y avoir, veut dire simplement peut, et c'est compatible avec doit. Mais avec l'âge et sophistication et effort, on peut rendre cette peut y avoir à quelque chose de plus riche. Donc ça correspond en fait à une approche qui vient de bon, je vais expliquer tout à l'heure. C'est que, bon, on va changer, au lieu de parler de peut qui est un peu compliqué, on va parler de quelque chose de presque identique, qui est le mot certain. Certains a le même, c'est aussi un scalaire généralisé, dans le sens que si on dit certains, ça implique souvent, mais pas toujours, pas tous. Donc si je dis certaines personnes dans la pièce à côté sont des hommes, ça implique certains ne sont pas. Et donc, si, du point de vue formel, quand on dit certains, on peut imaginer qu'il y a quatre manières de représenter. Disons certains x sont des y, on peut imaginer que c'est une intersection, que le x est dans le y, ou bien que le y est dans le x, ou bien que les deux sont identiques. Mais la proposition, c'est que avec un enrichissement de certains et pas tous, élimine 2 sur 4. Et en fait, un enrichissement, et c'est pas forcément intuitif, un enrichissement, c'est qu'on commence avec un truc plus général et on réduit à nombre plus limité. Et c'est ça, cette étape-là, qui demande un peu d'effort. Et ce n'est pas forcément nécessaire dans tous les contextes. Et donc ça, c'est l'approche de la pertinence. Donc je travaille, en fait, quand François avait dit que j'ai aidé de créer un domaine qui s'appelle pragmatique expérimentale, c'était fait avec Dan Sperber, qui a aussi une théorie très répandue qui s'appelle la pertinence. Et l'idée, c'est qu'on commence avec une phrase et il faut voir ça comme des gains ou des effets cognitifs. On fait une interprétation sur une phrase, on doit faire un peu de travail. Et donc, pour comprendre l'interprétation intentionnée par le locuteur, c'est une question de faire de mesurer les gains en termes d'effets cognitifs, mais aussi de voir combien ça coûte. Bon, c'est pas la conférence pour discuter de ça, mais bref, on peut voir comment que ça représente un gain, mais ça prend un peu d'effort. Ça, c'est une approche. L'autre approche dit qu'on commence avec certains, mais pas tous, et si la situation le demande, on peut le généraliser pour devenir encore une fois le sens sémantique. Donc on peut voir que soit on commence avec tous les quatre, on descend à deux, ou bien on imagine que quand je dis certains, ça veut dire certains, mais pas tous, mais si la situation le demande, on peut retourner au sens sémantique. Donc, comment tester ça? Je vois que je parle trop. Je ne vais pas arriver de faire tous les quatre exemples. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé avec Louis Bott, qui était un postdoc à l'époque, on a créé une situation où les gens étaient obligés de lire des phrases du style. Bon, je vais commencer avec des choses plus évidentes. Toutes les vaches sont des mammifères, donc ça c'est vrai. Donc la tâche était de dire si la phrase est vraie ou fausse. Et puis il y a des phrases qui sont forcément fausses, comme certains vaches sont des fruits, donc ça c'est faux. Mais c'est ça qui est le plus intéressant. Parce que si je dis certains vaches sont des mammifères, on pourrait dire que c'est vrai, parce que toutes les vaches sont des mammifères, dont certains. Ou bien, si on a une interprétation comme certains, mais pas tous, ça devient fausse. Donc, si on imagine que ça devient pas toutes les vaches sont des mammifères, on a une raison pour dire faux. Donc, la question, c'est comment ça fonctionne. Si la pertinence a raison, ça prend un peu d'effort pour avoir l'interprétation pragmatique enrichie, et ça va demander plus d'efforts de la part du sujet. Si l'autre position, qui était de Stephen Levinson, a raison que automatiquement, par défaut, on traite certains comme pas tous, la réponse fausse devrait être plus rapide. Et pour avoir une réponse vraie, il faut retourner à le sens sémantique. Donc, on a présenté une série de phrases comme ça, mot par mot, avancé par la machine, par l'ordinateur. Et on voit qu'effectivement, il y a, bon, pour tous les contrôles, pour tous les autres que j'ai montrés, pas de problème, les gens donnent une bonne réponse. Pour celui qui est sous-informatif, comme certains vaches sont des mammifères, on voit qu'il y a deux sortes de réponses. 40% disent vrai, 60% disent fausse. Mais ce qui est important de voir, c'est que pour ceux qui disent vrai, qui est la réponse logique, disons, parce que c'est vrai de dire que certains vaches sont des mammifères, la réponse est aussi rapide que tous les autres cas. Et c'est uniquement ce cas-là où la réponse fausse qui demande cet enrichissement pragmatique demande beaucoup plus d'efforts pour une réponse. Donc ça, c'était une des premières indices que la pragmatique, l'enrichissement pragmatique demande un peu plus d'efforts. Et puis, on a fait de follow-up. Il y avait une suite d'expériences qui soutient à la fin. Bon, il faut que soit vous lisez l'article ou bien comptez sur moi. On a soutenu l'hypothèse de la pertinence qui montre que cette étape pragmatique, bon, pour faire une interprétation pragmatique, prend un peu d'effort supplémentaire au-delà de l'interprétation purement sémantique. Donc, on peut résumer cette littérature empirique comme sur le scalaire. On peut dire qu'ils sont coûteux à produire. Et cela se base sur le type de résultat suivant. Bon, d'abord, les enfants enrichissent moins souvent que les adultes. Les scalaires ne sont pas systématiquement produits parmi les adultes. C'est ça qu'on a vu avec le 40% et 60%. Et puis, la présence d'une inférence scalaire est liée à des temps de lecture plus longs. Et on a des autres expériences qui soutiennent cette approche, plusieurs fois. Et donc, et tout ça était anticipé par la théorie de la pertinence, que les significations linguistiquement encodées sont sous-déterminées et compatibles avec des lectures sémantiques faibles, disons. Donc, chaque fois que je parle d'une interprétation littérale, c'est aussi sémantique, formelle, logique, etc. Et toutes choses égales par ailleurs, les enrichissements pragmatiques demandent un certain effort. OK, donc, Ça, depuis les enfants scolaires, et c'est toujours le cas, c'est le sujet de beaucoup d'expériences, mais ça, il s'agit d'un nouveau type d'inférence, ça c'est juste une traduction, celle qui souligne que l'inférence est sensible au contexte, consommatrice de temps, mais détectable par les mesures online. Ça veut dire qu'online, ça veut dire qu'on peut mesurer le nombre de millisecondes que ça prend. Et depuis, il y a des études avec le EEG, le IRMF, etc. OK, donc ça, c'est un exemple. J'espère que c'est clair. Comment un petit mot important comme un quantifieur pourrait être interprété dans deux manières. Celui qui demande un enrichissement demande un peu plus d'effort. OK, bon, je vais aller vers l'ironie. Dans l'ironie, je pense qu'on a tous une intuition qu'est-ce que c'est. Mais il y a aussi des scolaires qui étudient ça. Et là, je vais commencer. Bon, j'ai, dans le train, je me suis dit, bon, je jette beaucoup de mots, disons, techniques, bon, scalaires, pragmatiques, etc. Il y a un autre terme que je vais mettre sur le plateau, qui est la théorie d'esprit. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant de cette expression, mais théorie d'esprit, c'est simplement la manière qu'on utilise nos têtes, nos cerveaux, pour se faire comprendre l'intention des autres. Donc, il y a chaque geste, chaque chose, chaque mot demande qu'on comprenne l'intention derrière. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure, mais c'est basé sur maintenant une littérature énorme, et on peut dire que c'est grâce à la psychologie qu'on utilise ça, on utilise le concept de théorie d'esprit pour mieux comprendre les autistes. Bon, si je prends l'eau, vous imaginez que j'ai soif. Donc, c'est quelque chose comme ça, et c'est vrai. Donc, parlant d'ironie, c'est un bon exemple dans le monde de langage où on devrait, où c'est évident en tout cas, qu'on devrait utiliser la théorie d'esprit. Donc, imaginez deux chanteurs d'opéra qui chantent dans la même représentation de Carmen. Et ça marche bien. Donc, une copine dit à l'autre, ce soir, on a donné une super performance. OK, on peut dire qu'elle est contente, sincère. Il n'y a pas grand-chose à déchiffrer. Mais maintenant, imaginez que ça passait très mal. Ils ont chanté dans une manière horrible. C'était embarrassant. Et puis, elle dit la même chose. Ce soir, on a donné une superbe performance. Et là, on peut voir que l'ironie requiert d'aller au-delà du code linguistique. Parce qu'on a dit la même chose. Et d'après les dictionnaires, etc., signification ironique, c'est l'opposé à ce que le locuteur dit. Mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, ça demande d'accéder à l'intention de locuteur, puisqu'elle exprime une attitude. C'est ça qui compte. L'attitude, c'est lié à la théorie d'esprit. Et d'après le terme technique, c'est dissociatif. Donc, d'une perspective cognitive, la capacité à interpréter les pensées de l'autre est habituellement appelée théorie de l'esprit. Okay, donc, il faut comprendre l'attitude derrière pour comprendre qu'est-ce qu'elle voulait dire. Je vais entrer un peu en détail. Dans toutes les hypothèses de linguistes et philosophes sur la question, elles connaissent que celle-ci transmet une attitude de la part de locuteur. Je veux dire que l'ironie transmet une attitude. Donc Grice a dit que l'ironie est basée en partie d'un jugement hostile, dénigrant, ou sur un sentiment comme l'indignation ou le mépris. Et Wilson et Sperber, les deux fondateurs de la pertinence, disaient que le point de l'ironie est, pour le locuteur, de charger d'un certain type d'attitude, de dérision ou dissocier une pensée avec un contenu semblable. Bon, c'est un peu trop technique. Et puis, un troisième, et je n'ai pas entré dedans maintenant, même si ça, c'est une autre hypothèse pertinente. Mais juste pour vous donner un autre exemple qui vient de Deirdre Wilson, imaginez que vous sortez d'une réunion et on dit « Ah, ça s'est bien passé », mais avec un sens ironique. Si Marie a utilisé « Ah, ça s'est bien passé », afin de communiquer que c'était ridicule de penser que sa réunion aurait pu bien se passer, que c'était stupide que ses amis les rassuraient et naïf de les croire, etc. Donc Marie exprime une idée, elle fait un écho, elle fait à énoncer avec un contenu similaire à celui exprimé dans son énoncé, afin de porter un regard critique au moqueur de ce que était prévu. Donc c'est un peu technique, mais le point c'est que quand on dit un truc comme bon, ça c'était un bon conférence, bon, j'espère que vous dites pas ça dans une manière ironique, mais l'idée c'est que vous faites référence à quelque chose qui était prévu, mais avec une attitude dissociative. Donc on se sépare des faits qui se passaient et on cherche de donner une attitude vers les faits. OK. Donc, quand on regarde dans le domaine, dans le monde psychologique et les études sur l'ironie, on ne voit pas de tout ça. On ne voit pas la référence aux questions d'attitude. On parle plutôt des choses. La question a devenu est-ce qu'on peut lire une ironie aussi vite que une version littérale et des choses comme ça. Et dans le travail que j'ai fait avec, comme j'ai dit, ça s'appelle techniquement l'attitude description, d'avoir une attitude, de détecter une attitude au moment qu'on dit une ironie, qui n'est pas présent dans le débat psycholinguistique. Donc avec Nicole, on voulait réintroduire la question de attitude et on a fait ça avec plusieurs études et on a fait ça avec des petites histoires, ce qu'on appelait la vignette, où on présentait des phrases en série et les gens étaient obligés de taper par exemple la barre d'espace. On a mesuré, par exemple, le temps de lecture et au fur et à mesure, nous étions dans le scanner avec les sujets pour voir quelles aires de cerveau s'activent au moment qu'on fait une ironie, mais avec une hypothèse assez précise. Donc, je vous donne un exemple d'une de nos histoires. Donc, pour chaque histoire, il y a deux versions. Il y a une version ironique et une version littérale. Dans la même manière que j'ai présenté, en fait, l'histoire de Carmen que j'ai présentée tout à l'heure, ça vient d'une de nos histoires. Donc, Luke parle de ses investissements à Alfred, qui est courtier en bourse. Luke voudrait investir son argent dans les actions d'une petite entreprise. Alfred lui explique les avantages et les inconvénients. Et ça, c'est critique parce que ça va rendre la phrase de test littéral et ironique. Donc, Luke achète les actions, mais un mois plus tard, leur valeur a diminué de moitié. Et lors de la réunion suivante, Luke en reparle à Fred et dit « Ah, c'est ce que s'appelle un investissement rentable. » OK, donc il a dit ça. Donc, ça, c'est ironique. Bon, vous êtes tous d'accord. On a testé toutes ces histoires. Et puis, une phrase pour terminer l'histoire. Et puis, une question un peu superficielle. À votre avis, est-ce que Luke veut investir dans une grande entreprise pour juste vérifier que les gens font attention? Et donc, et là, on a la version littérale. C'est la même histoire. Bon, il voulait investir l'argent. Un mois plus tard, le cours d'action de Luc a déjà doublé. Au cours d'un déjeuner, il répare la fête. Ça, c'est ce que s'appelle un investissement rentable. Donc là, c'est littéral. Il a dit ça pour dire que, OK, ça marche. Et puis, on a mis une troisième sorte d'histoire. Je ne sais pas si j'ai bien traduit le mot de l'anglais, parce qu'en anglais, on appelle ça un decoy, un leurre, parce que la crainte, comme je vais vous montrer, est que s'il y a toujours une histoire négative suivie par quelque chose d'ironique, c'est une espèce de... on pourrait anticiper l'ironie. Donc on a mis des histoires qui contiennent quelque chose de négatif, mais qui n'est pas suivi par une phrase ironique. Donc, un exemple là, c'est Valérie organise une surprise pour l'anniversaire d'une copine. Elle demande à Romain de l'aider. Romain est tout à fait d'accord. Malheureusement, la copine en question découvre le secret. Blablabla. Valérie dit à Romain, l'effet de surprise est complètement raté. Donc ce n'est pas ironique, c'est juste une phrase d'effet. Et juste pour vous montrer comment ça change, parce que on voulait que, on a vu au fur et à mesure que la réaction au début de la tâche n'est pas forcément la même qu'à la fin, mais on voit que s'il n'y a pas de leurre, on pourrait maintenir la différence entre ça c'est ironie et ça c'est littéral, que le temps de lecture de cette phrase est toujours plus long dans l'ironie, même à la fin de la tâche. Mais si on enlève les leurres et on a juste chaque fois qu'il y a une chose négative, c'est ironique, au fur et à mesure, les gens deviennent aussi forts en disant une phrase ironique que littérale. Et c'est notre histoire dans la littérature, mais ça pourrait expliquer pourquoi il y a toujours ce débat sur est-ce que l'ironie prend plus de temps. Je pense que les gens pourraient... au fur et à mesure, surtout s'il y a beaucoup d'histoires d'entraînement, d'anticiper une ironie jusqu'au point que c'est assez rapide. Mais voyons qu'on a envisagé d'aller dans le scanner, on voulait que les gens restent toujours vigilants pour une ironie, et donc on a mis des leurres. Donc, et voilà. Donc, il y a, bon, à notre grande surprise, il y a en fait une littérature dans le domaine de neuroimagerie, quand la machine a été née, disons, tout le monde a fait leur test sur leur sujet favori, dont l'ironie. Et en fait, il y avait 7 ou 8 études, mais qui donnent pas, qui nous donnent pas une histoire, qui nous donnent pas quelque chose de consistant. En même temps, il y a un autre littérature qui étudie en détail cette théorie d'esprit, qui était née avec une tâche qui s'appelle le salient task, que je ne vais pas présenter parce que je pense que c'est un peu intuitif, l'idée qu'on peut capter l'activité cérébrale au moment quand les gens devraient faire une espèce d'hypothèse sur les pensées de quelqu'un d'autre. Et je vais vous donner un exemple. Mais après une centaine, 300 tâches de ce genre, il y avait quelqu'un qui a fait, bon, plusieurs personnes en fait, qui ont fait des études qui ramassaient toutes les données pour déterminer quels sont les aires impliquées dans la théorie d'esprit. Et en fait, il y a 4 endroits, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a, ce qui est important, c'est celui-ci qui est le right temporal parietal junction, c'est l'endroit où les aires temporelles et parietales se rencontrent. Et ça, c'est le plus important d'après cette étude meta-analysis. Et je vous donne juste un exemple pour vous donner une idée de cette littérature. Ça, c'était une tâche où un expérimentateur donne à un acteur la tâche du sujet était d'être dans le scanner et regarder cette scène. Et la scène, c'est juste quelqu'un qui porte une petite boîte. Mais quelquefois, ça vient de Julie Grez qui est à Paris, quelquefois, l'expérimentateur qui n'est pas dans la scène donnait le poids de cette boîte. Et quelquefois, elle a donné le vrai point, quelquefois, la fausse information. Et donc, c'était le boulot de sujet de déterminer si dans la version vraie, l'expérimentateur donne à l'acteur le poids exact de la boîte. Dans une version simulée, l'expérimentateur donne à l'acteur le poids exact de la boîte en lui demandant de faire semblant que la boîte ait un poids différent. Donc, on peut demander à cet acteur de prétendre que c'est plus lourd ou plus léger qu'il est. Et puis, c'était la tâche du sujet de déterminer si c'était vrai ou faux, que la, ce qu'elle a porté était vraiment la taille, le poids qu'elle a pensé ou pas. Est-ce qu'elle voulait faire simulation ou c'était vraiment un vrai acte? Et ce qui était impressionnant, c'est que les sujets pourraient détecter la différence en général, qu'ils sont plutôt capables de voir quand c'était vrai et quand c'était fake, quand c'était fausse. Et quelquefois, ils avaient raison. Donc, le C, là, c'est correct. Et ça, c'est pas correct. Mais on voit que dans cette R, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, on voit plus d'activité quand ils sont obligés de voir si c'est fausse et pas vrai. Donc, les gens détectent même intuitivement quand l'acte est un faux acte. Et donc, c'est juste un exemple pour voir qu'on peut détecter les intentions des acteurs devant nos yeux. Et ça, c'est sans mots, hein. Ça, c'est juste un acte physique. On peut voir si on calcule, si on veut, la manière que les gens réagissent en fonction d'informations. Et c'est cette aire que j'ai indiqué tout à l'heure. Et ça, c'est juste un exemple. Il y a plein d'exemples qui montrent que les gens sont très sensibles aux intentions des autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans la littérature sur l'ironie, ce n'est pas très clair. Il y a un peu des choses partout, il n'y a pas une histoire. Donc, nous avons commencé avec l'idée que si l'ironie demande la théorie d'esprit, on devrait voir l'activité dans les airs de théorie d'esprit. Et donc, et c'est effectivement ce qu'on a vu. Dans tous les quatre airs qu'on voulait étudier, il y avait plus d'activité. Bon, ça, c'est le fameux right temporal parietal junction. Si c'est une ironie, ça demande plus d'activité que la version littérale. Et c'était le cas pour tous les quatre. On était super excités par ces données parce que souvent, on fait des prédictions et on espère de trouver quelque chose de précis. Et cette fois-ci, on était vraiment, on a trouvé exactement ce qu'on voulait trouver, qui est assez rare. Donc, à retenir sur l'ironie, c'est que l'ironie verbale active rapidement les régions theory of, TOM, c'est theory of mind, ou théorie d'esprit. Et cela est en opposition absolue avec les études précédentes. L'ironie est notre champ expérimental, mais nous affirmons que chaque phrase, j'ai montré les données sur certains, qui est une phrase assez banale, mais avec ironie, on pourrait dire, ah bon, c'est ironie, c'est un peu exceptionnel. Mais non, nous affirmons que chaque phrase sous-détermine la signification de chaque énoncé et que le langage requiert d'aller au-delà du code linguistique. Et le tiré d'esprit est sans doute la porte d'entrée pour faire ces inférences pragmatiques. Donc, d'après le modèle qu'on défend, le langage n'est pas un module indépendant, ça dépend de la théorie d'esprit. Et on voit ça avec des inférences pragmatiques. OK, je vois que j'ai 15 minutes. Ou 20, OK. OK, je vais tourner vers les blagues. Mais je présente ça, en fait, même si les blagues sont super intéressantes eux-mêmes, je présente ça comme une parenthèse parce que je veux aller vers une autre inférence pragmatique. Et c'était grâce à nos études, et c'est là où je tourne vers le travail de Tiffany. C'était avec les blagues qu'on a mieux compris un effet qu'on a utilisé avec cette dernier exemple, ce qu'on appelle l'inférence contrastive. Avant. Mais les blagues. Bon, une compréhension d'une blague, c'est quoi? On pourrait dire que c'est juste pour nous faire rire, mais quel est le mécanisme derrière? C'est super intéressant, en fait. Et une des choses qui est derrière la compréhension d'une blague, c'est le partage d'attitude. Et on note ça souvent. Bon, on voit qu'il y a des gens qui font des blagues sur des autres groupes ou bien sur des gens qui sont... On voit souvent qu'il y a une distinction parmi les gens en fonction des blagues. Donc, je vais parler de concept de in-group et out-group. Il y a des gens qui font des blagues sur les in-group, pardon, sur les out-group. Donc, si on est dans les in-group, on pourrait moquer des gens dans les out-group, etc. Ça, c'est juste un effet. Ça n'explique pas toutes les blagues, mais on va défendre l'idée que si on partage une attitude avec notre interlocuteur, on va rire plus. Donc, on a fait une étude, je ne suis pas spécialiste de ça, mais il y a des gens qui étudient l'activité ça s'appelle EMG, électromyographie. Donc, c'est les études sur l'activité musculaire qu'on peut détecter avec les électrodes. Et il y a des sortes de rires qui sont connus comme Duchenne ou pas Duchenne. Et c'est en mettant des électrodes ici et ici qu'on peut mesurer la réaction des gens aux blagues. Et donc, pour créer in-group et out-group, on a fait, en fait, c'était l'idée de Tiffany de faire ça. C'était pendant l'élection de 2012. Et pour créer in-group et out-group, on a présenté deux personnes qui racontent les blagues. Et on dit que une de deux personnes vient de gauche et l'autre de droite. Sinon, le descriptif de deux personnes, Ludovic et Pierre, sont assez banals. Et on a présenté le mot gauche ou droite dans une manière très incidentelle. Ce n'était pas central de notre descriptif. Donc, on a dit que Ludovic est très impliqué dans la vie associative de Clermont-Ferrand. C'était fait à Clermont-Ferrand. Il participe régulièrement aux commissions des conseils de la jeunesse. C'est à l'occasion de la campagne de 2007 qu'il devient très engagé politiquement à gauche. Et Pierre, c'est plus ou moins la même histoire. Il est vice-président de l'association des étudiants de faculté. Et puis, son expérience et son éducation le portent fortement vers la droite. Donc, en fait, le fait que quelqu'un est à gauche ou à droite, ce n'est pas vraiment pertinent pour nous. Ce qui est important, c'est de savoir le positionnement politique des sujets. Parce que si c'est gauche-gauche, ça implique in-group. Si le sujet est gauche et il écoute les blagues de Pierre, ça implique que c'est une interaction entre deux personnes qui sont out-group. Donc si le sujet est par hasard de droite, il serait in-group avec l'autre personne qui est droite et out-group avec la personne de gauche. Donc, on peut, en fait, même si c'est super intéressant, on peut ignorer la question de gauche ou droite. Ce que compte, c'est in-group versus out-group. Et donc, juste pour vous donner un exemple d'une blague, ce que comptait pour nous, c'est qu'on ne peut pas que le dernier mot ou dernière phrase est critique pour faire l'inférence, pour comprendre la blague. Donc, une alcoolique va chez le médecin parce qu'il a des maux de tête et de vertige. Le docteur l'examine et lui dit, écoutez, je ne vois rien, ça doit être l'alcool. Et le patient répond, ok docteur, dans ce cas-là, je reviendrai lorsque vous serez à jeûne. Alors, c'est pas, ok, bon, je ne vais pas utiliser celui-ci la prochaine fois. Une fois, parce que normalement, j'utilise une blague sur la belle-mère. Et une fois, j'ai fait un talk et j'ai présenté la blague et j'ai noté que les mères n'étaient pas très contentes. Donc, j'ai changé la blague, mais je vois que celui-ci n'est pas très fort non plus. Donc, Ok. Bon, en fait, je voudrais juste vous montrer que cette manipulation in-group versus out-group fonctionne. Et c'est ça qu'on voulait voir. Et puis, c'est une étude importante en soi. Mais je vous présente juste la première expérience pour vous montrer que au niveau de... Bon, oui, je n'ai pas mentionné qu'on a aussi donné au sujet une évaluation des blagues. Donc, ils étaient... Bon, on a mesuré leur réaction physiologique, mais aussi on a demandé au sujet de dire est-ce que c'était un bon blague ou pas un bon blague. Et au niveau de l'évaluation des blagues, qui était entre 0 et 100, si c'était in-group, la mesure était plus élevée que si c'était raconté par un out-group, par un interlocuteur qui est reconnu comme out-group. Et pareil pour la mesure physiologique. Donc, ça prend à peu près 4 secondes pour arriver au pic. Et on voit que si c'est out-group, on rit un peu moins que si c'est un membre in-group qui raconte la blague. Et ça, c'est de... Zygomaticatis et herbicularis. Donc, les deux mesures nous donnent le même résultat, qui est une différence en fonction de l'interlocuteur. Et puis, on a noté qu'il y a un effet de qualité de la blague. Donc, ce que j'ai présenté, je pensais considérer un. Bon, on a juste divisé les blagues en deux, ce qu'on appelle top tier et puis second tier. Et si c'est top tier, la différence entre un groupe était pas très fort, mais si c'était une blague moyen, là on voit vraiment la différence. Ok. Bon, tout ça en fait, c'est super intéressant, mais je vous présente ça pour présenter, pour préparer le terrain pour la dernière expérience. Mais on peut quand même résumer les données sur les blagues pour dire que la filiation sociale supposée de locuteur influe sur l'appréciation des blagues et sur le rire. Oui, donc, en fait, bon, tout ça, c'était fictif. Hein, Ludo et Pierre n'étaient pas de vraies personnes. Donc. Et cet effet semble conditionné par la présence d'un locuteur de l'out-group. Bon, ça, je n'ai pas présenté, mais en fait, dans une deuxième expérience, on a comparé une personne qui était identifiée fortement de soit gauche, soit droite, ou bien quelqu'un qui était neutre. Et quand on a quelqu'un qui est neutre à côté, on a aussi un effet. Mais c'est pas... Bon, la question derrière ces études, c'est est-ce que l'effet in-group, ça vient de simple fait qu'on veut avoir une affiliation avec notre in-group, ou est-ce que le rôle de le membre out-group joue un rôle? Est-ce que c'est une réaction contre l'out-group, qu'on devient plus copain ou on rit plus avec l'in-group, ou est-ce que... c'est une réjection, en fait, de l'out-group qui nous fait mieux apprécier la blague de quelqu'un de in-group. Et à notre surprise, c'est en fait l'hypothèse qui dit que ce n'est pas juste une affiliation naturelle qui nous fait rire à notre in-group, c'est en fait une réaction contre l'out-group qui nous fait rire plus à quelqu'un qui est neutre ou bien in-group. Et voilà. Bon, tout ça pour préparer le terrain de la dernière inférence pragmatique. Les blagues sont clairement pragmatiques, mais notre but, c'est de montrer avec des choses plus banales, disons, ou plus basiques, qu'on a ces mêmes effets en fonction de in-group et out-group, même avec des inférences pragmatiques qui ne sont pas aussi évidentes. Donc, il y a une autre inférence pragmatique qu'on appelle l'inférence contrastive. Qu'est-ce que c'est ? Une inférence contrastive, c'est, bon, si je dis passez-moi le grand verre, pourquoi j'ai utilisé le mot grand? Pourquoi j'ai utilisé l'article le grand verre? Ça implique qu'il y a quelque chose d'autre dans le contexte. Donc là aussi, on voit la différence entre l'interprétation littérale ou le code. Donc le grand verre pourrait faire l'objet pour être ça. Bon, ça, c'est une manière de parler de cet objet, c'est un grand verre. Mais pourquoi le locuteur a choisi le terme « le grand verre » On peut hypothétiser qu'il y a un autre verre qui n'est pas grand. Donc, on veut rejeter le petit verre impliqué dans cette phrase, et on veut celui-ci parce qu'il y a implicitement un autre vers qu'on rejette. Et donc, il y avait beaucoup d'études sur ça. Et ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que cet effet in-group et out-group pourrait jouer un rôle dans la manière que les gens font ce genre d'influence contrastive. Donc, imagine que vous êtes sujet et vous avez une souris que vous placez là et il y a un interlocuteur qui dit cliquez sur le chien sec. Pourquoi cette personne a dit le chien sec? Parce qu'il y a un chien mouillé à côté. Donc, il y a une raison pour dire le chien sec et on va voir la manière que les gens montent pour cliquer sur cet objet, le chien sec. La question qu'on pose est-ce que l'appartenance sociale attribuée au locuteur influence-t-elle notre propension à faire des inférences, même contrastives? Et donc, pour faire cette étude, on retourne à ce qu'on appelle la condition open contrast, parce que le contraste entre les deux, dans cet exemple chien, est open, c'est ouvert, c'est évident. Mais qu'est-ce qui se passe si on cache dans une certaine manière l'autre chien, on dit le chien sec. Et en fait, ce n'est pas évident dans cette slide, mais derrière, avec un peu d'effort, on peut voir ce fameux chien mouillé. En fait, ça va comme ça, si on magnifie. Et donc, ça, c'est les deux conditions pertinentes. Et la question, c'est est-ce qu'on va faire un effort supplémentaire ou différent en fonction d'un interlocuteur? Est-ce qu'on va faire plus d'efforts pour chercher l'objet derrière en fonction de l'interlocuteur? Et donc, c'est la même histoire que tout à l'heure. On a deux personnes. Romain, qui est maintenant un étudiant chez nous. Christophe, je pense, qui était une fois étudiant chez nous. Et c'est le même approche. Il y a quelqu'un qui se présente et on dit qu'il est de gauche, et l'autre qu'on dit qu'il est de droite. Et à la fin de cette étude, on va demander au sujet, on donne un questionnaire qui nous permet de savoir si eux sont de gauche ou de droite. Et il y a certaines choses qui sont importantes pour nous, c'est de savoir la trajectoire de souris. Et une chose qu'on note, c'est que quand l'objet contraste est caché, les gens vont plus directement à l'objet. Donc, si c'est ouvert, et c'est ça c'est la même chose que ça. Quand c'est ouvert, on est tenté on entend le chien et puis sec, et puis on est tenté d'aller par là. Donc, ça, c'est juste un fait qui confirme que la manipulation a marché. Et donc, dans le hidden contrast, c'est la mesure de fixation des yeux sur l'objet. Donc, il y a plus de fixation quand c'est hidden contrast. Et les gens passent plus de temps sur l'objet qui est caché. Tout ça, c'est intuitif. Mais la question qu'on nous posons, c'est sur la manière qu'on regarde, on cherche derrière cet objet caché en fonction de l'interlocuteur. Et ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, on a fait une distinction entre le début de l'expérience, la première partie de l'expérience, la première moitié d'expérience. Ah, pardon, ça ne devrait pas sortir comme ça. Pardon, c'est un peu... Donc, dans la première partie d'expérience, donc ça, c'est les gens in-group, voilà. Donc, ça, c'est les gens in-group et ça, c'est out-group. Donc, quand c'est open, il y a une différence, mais ce n'est pas très important. Ce n'est pas significatif, en tout cas. Mais quand c'est hidden, ça veut dire qu'on doit faire plus d'efforts pour chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, en fonction de in-group ou out-group speaker, on voit que quand c'est le out-group speaker, quand c'est quelqu'un qui n'est pas de notre genre, si vous voulez, on passe plus de temps derrière. C'est comme si on ne fait pas confiance et on veut vérifier que bon, pourquoi cette personne m'a dit le chien sec? Donc on regarde derrière l'objet pour vérifier que, ah oui, effectivement, il y a un autre chien pas sec, un chien mouillé, et donc je vais vérifier. Mais on fait ça beaucoup plus souvent si ça vient de quelqu'un de notre out-group que si c'est quelqu'un de notre in-group. Donc ce que nous donne quand même l'espoir pour notre monde social, c'est que dans la deuxième partie de l'expérience, ça qui était très différent descend. Mais je pense pour deux raisons. Une, c'est que bon, il n'y a jamais une phrase qui est fausse. C'est toujours, comme on dit dans la pragmatique, féliciteux. C'est toujours vrai. Bon, il n'y a pas une raison à nos sujets de douter à la fin les locutions de tous les locuteurs, même si c'est in-group ou out-group. Et donc ça descend, mais ça descend dans une manière qui implique, bon, c'est pas significatif, mais ça descend dans une manière qui implique qu'on s'en fiche un peu de notre interlocuteur out-group, mais on est toujours consistamment, on regarde avec, pendant toute la tâche, derrière l'objet caché, quand c'est in-group. Donc c'est comme si on joue le jeu avec l'in-group member. Si c'est quelqu'un d'in-group, on va rester engagé, on va faire la tâche, on va regarder plus souvent dans l'objet caché, quand c'est dans les hidden contrast conditions. Par contre, il y a beaucoup de variations qui arrivent quand on entend la même sorte d'instruction qui vient de quelqu'un d'out-group. Donc, on peut résumer cette partie-là. Une expression surinformative génère davantage de regards sur un potentiel objet contraste et le sujet vérifie davantage la pertinence d'une instruction venant d'un locuteur out-group. Donc, si on entend quelque chose qui vient de quelqu'un dans lequel on n'a pas forcément trust ou la foi qui nous dit quelque chose utile ou vrai, on va faire plus d'attention. Mais par contre, on peut changer notre avis au fur et à mesure. Donc, pour terminer la conférence, je vais juste faire la conclusion générale. Donc, le modèle intentionnel capte beaucoup plus d'une communication qu'une analyse purement linguistique. Donc, on doit aller toujours au-delà de le code linguistique. Les exemples illustrent le rôle joué par les intentions dans la communication. Le rôle de la théorie de l'esprit occupe une place centrale dans la communication. Et puis les phénomènes sociaux qui s'appuient sur la théorie d'esprit, par exemple les effets in-group, out-group. Et puis j'ai un collègue, Jean-Baptiste, qui étudie les hiérarchies dans la communication. Tous ces genres de choses, ça s'appuie sur la théorie d'esprit et ça module la communication. Et avec ça, je m'arrête. Merci. S'il y a des questions techniques ou que je vais plus profondément dans le détail de l'expérience, je suis prêt. J'ai même d'autres slides.
D'abord, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Il y avait trois exemples très clairs. J'ai été frappé, ça m'a rappelé des études que j'avais faites il y a longtemps, par le fait que tu t'intéresses aux deux moitiés de tes expériences, le début, la fin. Maintenant, je ne sais pas si c'est systématique, et je me suis dit, mais après tout, oui, c'est quasiment forcé dans des expériences de pragmatique, puisque tu t'intéresses au fond à la manière dont les gens comprennent des conventions de communication, et forcément quand tu fais ton expérience, il y a de nouvelles conventions qui vont s'établir au fur et à mesure. Est-ce que systématiquement maintenant tu analyses les deux moitiés de tes expériences et tu constates des résultats différents? Est-ce que tu fais même des hypothèses a priori là-dessus?
Ah, ça c'est une très bonne question, et c'est basé sur des observations. Honnêtement, donc c'est pas comme si on a eu un a priori qui dit bon, on va attendre, mais on a vu ça avec l'ironie et puis assez systématiquement. Et donc ça ouvre le terrain pour étudier pourquoi. Et je pense que c'est assez systématique. Je pense que presque dans toutes les tâches, et on ignore. Donc en fait, je suis retourné aux données que j'ai fait avec Lewis, avec le certain. Et là aussi, s'il y a une progression, par exemple, d'abord, il y a une progression vers une inférence pragmatique, mais pas dans l'autre sens. Mais aussi au niveau de temps passé, ça change. Au début, ceux qui sont, disons, pragmatiques, qui font systématiquement l'inférence pragmatique de début jusqu'à la fin, au début, c'est une espèce de choc. Et puis, au fur et à mesure, ça descend vers l'interprétation des gens qui sont des terrains. Et à mon avis, l'hypothèse que je développe maintenant, c'est qu'il y a en fait une espèce de défaut au niveau d'attitude. Oui. On entre dans une expérience, bon, tout est possible, mais on a une espèce d'attitude que, bon, et je pense aussi dans la vie quotidienne, d'une interaction un peu sincère, basique, pas de surprise. Ouais. Mais s'il y a une surprise, ça demande une espèce de détournement ou de changer l'attitude. Et puis, si on s'adapte à cette attitude, ça devient aussi naturel que ses défauts. Donc, je pense à l'ironie, par exemple. Donc, même quand je parle aux gens qui habitent à Londres, oh, tout le monde est ironique, mais il y a quand même certains qui disent que je ne suis jamais préparé pour une ironie, même si j'habite à Londres. Et donc, je pense qu'il y a un défaut, même parmi ceux qui sont dans une culture très ironique. Et ça demande un effort, et puis, mais un peu facilement s'adapter. Donc, c'est pas. Donc, j'ai vu ça aussi, je me souviens que. Je te donne une explication plus longue que tu t'attends, mais c'était une bonne question. Dans le monde des blagues, par exemple, si quelqu'un est très amusant, il est encore plus amusant s'il y avait beaucoup de blagues qui précédaient. Donc, si ça te met dans une position, dans une étude, une attitude de rire, je pense qu'on est plus près de rire.
Je vais laisser la parole à d'autres personnes, mais tu mets un commentaire. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de savoir si, ce que tu fais début-fin, mais si en fait, on a des évolutions brutales pour un sujet, si soudain, il découvre quelque chose, ou si c'est tout à fait cumulatif et progressif.
Ah oui, un insight ça devrait varier en fonction du sujet. Oui.
Pardon.
Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Moi, j'ai été particulièrement intéressée par tout ce que vous avez dit sur le début, sur les coûts cognitifs qui sont associés aux interprétations pragmatiques. Vous avez dit notamment que quand il y a une interprétation pragmatique à faire, bah, l'interprétation va être un petit peu plus coûteuse qu'une simple interprétation littérale. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans une vraie interaction, parce qu'en fait, dans vos expériences, les gens lisent des phrases, mais ils ne sont pas vraiment en situation d'interaction où ils seraient amenés à comprendre ce que dit quelqu'un. Il y a d'autres indices que simplement le langage qui permettent de détecter, par exemple, l'ironie dans un énoncé. Je vais hausser les sourcils, je vais utiliser une intonation différente. Et moi, ce que je serais intéressée de savoir, c'est si le coût cognitif associé à l'interprétation pragmatique diminue à mesure qu'on a accès à de nombreux indices, comme par exemple la prosodie, etc.
C'est une très bonne question. Il y a des études qui montrent que la prosodie pourrait faciliter une compréhension en général, mais quand même, par rapport à l'interprétation des terrains, c'est toujours un peu plus coûteux. Donc je pense que ça module l'aspect disons, pragmatique, l'accession à l'attitude ironique, etc. Mais il y a quand même d'abord un grand écart entre littéral et ironie. Et puis, peut-être, ça pourrait être modulé par d'autres facteurs. Mais ce ne serait pas... Et ce n'est pas juste avec ironie qu'on voit ça. C'est aussi des choses un peu banales, comme la force des mots. Il y a certaines études qui montrent que si on utilise... que je sais, c'est plus fort que je pense, et la manière que c'est dit, ça ne change pas la sémantique. Et je pense que c'est pareil pour l'ironie, qu'il y a une étape importante entre littéral et ironie, et puis une modulation.
Tout d'abord, je vous remercie. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec les concepts de littéral et pragmatique ou les sens dérivés d'un mot, puisque je pense par exemple à une situation où, par exemple, on est à côté d'une poulie et quelqu'un parle de la gorge de cette poulie, par exemple. Et bon, la gorge, forcément, c'est pas la gorge. Pragmatiquement, il n'y a qu'une seule. L'objet du monde, c'est forcément la gorge de la poulie. Il y a aucun souci, c'est-à-dire en termes d'espace mentaux, c'est les frames, le frame qui est convoqué par la situation, c'est celui de la poulie. Et donc, en fait, l'interprétation pragmatique, c'est la seule interprétation possible. Il n'y a pas d'interprétation littérale. Le seul objet du monde, c'est ça. Et c'est pour ça que, en fait, pour ça que le mot gorge, en fait, en soi, ne veut rien dire. Et c'est suivant le contexte dans lequel on l'a placé. Mais il n'y a pas de... Voilà, c'est quand vous parlez, moi, ça me fait penser aux instructions ou des choses comme ça. C'est quelque chose de sous-spécifié. Ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, un mot ne veut rien dire à partir du moment où il n'est pas en contexte. Et c'est tout le bonheur qu'il y a à travailler avec la pragmatique. C'est ça. C'est le dictionnaire, en fait, sert à peu de choses, en fait.
C'est un bon point. En fait, ça touche sur un débat qui est toujours actif dans la littérature entre ceux qui défendent l'idée qu'il y a un direct access. On peut accéder directement à l'interprétation intentionnée sans considérer le sens littéral du terme. Et ça reste quand même un point de débat, parce qu'il y a des données qui montrent, par exemple avec la métaphore, que même si on utilise un métaphore, je ne parle pas de métaphores qui sont morts, qui risquent d'être déjà intégrés comme un code, mais un métaphore original. Si par exemple je dis que Jean est un cactus, on peut dire en français, un cactus pour impliquer que c'est quelqu'un qui est un peu touchy, qui n'est pas... le sens de mot cactus comme plante est toujours actif pendant 300, 400 millisecondes. Donc on peut faire ça avec une tâche de priming. Donc ça reste contesté, cette idée de... En fait, il y a une histoire derrière. Parce qu'une fois Grice a défendu l'idée qu'il y a plusieurs étapes, on prend le sens littéral de l'expression, on voit que ça ne peut pas marcher, donc on cherche quelque chose d'autre qui implique que la raison pour laquelle une inférence pragmatique prend plus de temps, c'est parce qu'on doit considérer la phrase, rejeter l'interprétation littérale et puis trouver un moyen pour faire sens de l'expression. Ça, c'était nié. Et c'est pour ça que Grice est souvent, dénigré, parce que son première idée, mais c'est un philosophe, il n'était pas obligé d'avoir un modèle psychologique. Mais quand même, et c'est pour ça que les débats dans la pragmatique expérimentale, c'est important, c'est que maintenant, il y a des théories post-Griciennes. Parmi eux, il y a des gens comme Ray Gibbs qui défendent l'idée de direct access. Et puis, maintenant, avec des tâches très fines, on peut voir qu'il y a quand même des activités qui restent de sens littéral de terme. Et donc, on peut pas... Peut-être on peut jeter l'approche grécienne psychologique par les idées sur l'intention et tout, ça reste solide. Mais la procédure qu'elle a proposée, si tu veux... ne marche pas. Mais par contre, mais ça ne veut pas dire qu'on doit nier l'idée qu'il y a quand même un sens littéral de terme qui reste actif au moment qu'on entend quelque chose du style la gorge de poulie. Donc, il y a des données qui défendent ça, que le sens littéral reste quand même actif. Et puis, ça prend quand même une bonne seconde entière pour avoir accès uniquement à au sens. Métaphorique, au sens pragmatique. Et c'est pour ça que c'est important de faire des expériences, parce que si on compte uniquement sur nos intuitions, on pourrait penser que certains veulent dire, pas tous, qu'on n'a pas accès à le concept littéral avec la métaphore, etc. etc. Mais c'est un bon point. Que le contexte est très déterminatif.
Merci pour votre présentation. Alors, tout à l'heure, en début de présentation, vous avez montré que dans le cadre des connecteurs logiques comme OU ou des descripteurs d'appartenance d'éléments à des ensembles comme par exemple certains, d'une part, passer de l'interprétation logique à l'interprétation pragmatique, c'était lié à un certain coût, et d'autre part, vous avez montré que les enfants avaient tendance à privilégier plutôt l'interprétation logique. Est-ce qu'il y a des éléments de littérature qui montrerait que les enfants privilégient l'interprétation logique parce qu'ils n'ont pas encore acquis le fait que, en général, dans le monde, on utilise plutôt l'interprétation pragmatique, ou alors est-ce que ça serait parce qu'ils n'ont pas encore assez de ressources pour passer au niveau pragmatique, quand bien même ils comprendraient que c'est plutôt ça. D'ailleurs, ce n'est pas un ou exclusif.
Ça, c'est les deux approches qu'on peut imaginer que. Moi, je défends plutôt le deuxième. C'est une question de ressources. Comment on peut défendre ça? C'est en fonction des situations. Parce que dans l'exemple que j'ai donné, j'ai montré que les enfants de 5 ans, 7 ans, 9 ans même restent quand même, disons, logiques. Ce n'est pas la terminologie actuelle, mais restent logiques. Et que les adultes sont plutôt tendance de mettre en question cet usage de « peut y avoir ». Mais après, bon, nous et les autres, en fait, la réaction à cette étude était « Ah, Novak dit qu'il faut avoir 10 ans pour faire de la pragmatique. » Non, je n'ai jamais dit ça. On a juste dit qu'il y a une tendance développementale d'une interprétation sémantique qui suffit pour comprendre quelque chose, mais pour enrichir, ça prend plus d'efforts. Donc, comment on peut montrer que c'est une question de ressources? On peut descendre au niveau de l'âge. On peut trouver des enfants plus jeunes, rendre la tâche plus facile et voir si on a le même effet. Effectivement, oui. Donc, moi, je peux vous montrer après, mais j'ai des slides ici de cette expérience où on a rendu la tâche super facile et les enfants de 4 ans étaient plus, disons, logiques que les enfants de 7 ans. Donc, on a eu la même trajectoire. Et il faut dire aussi que plus que moitié d'enfants étaient, disons, pragmatiques, mais ils étaient encore plus pragmatiques avec l'âge. Donc, c'est pour ça qu'on défend l'idée que ces ressources, ce n'est pas juste d'être habitué. Donc, un enfant de 7 ans, dans une certaine expérience, pourrait être, disons, logique, mais dans une autre qui est plus facile, pourrait accéder à une interprétation plus riche, parce qu'il a de disponibilité de ressources. Donc ça, c'est notre position.
Justement, sur la logique, il y a de très nombreux chercheurs qui rejette l'utilisation de, enfin, l'explication simplement logique de la langue, en fait, que ça devient très très vite compliqué. Je pense à l'intégration conceptuelle, je ne sais pas si vous connaissez, de Marc Tsana et Gilles Fauconnier, où justement il y a toute une, j'ai pas l'exemple en tête, où il y a toute une histoire avec des justement il parle de sorcières, qu'il y a des sorcières dans un village, et que en fait, c'est tout bonnement impossible d'expliquer ça avec des symboles logiques, et que une même explication, on pense avoir fait l'inventaire de toutes les explications possibles, de toutes les interprétations possibles avec les symboles logiques, mais en utilisant le modèle de l'intégration conceptuelle, on se rend compte qu'il y a plein d'autres interprétations qui, en fait, ne sont pas explicables avec les symboles logiques. Donc.
Oui, donc ça, c'est le conceptual blending.
Oui, c'est ça.
Eux, ça, c'est une autre approche qui est soutenue par des gens plutôt à San Diego pour montrer qu'il y a des concepts derrière qui, en fonction de contexte, pourraient se mêler ensemble dans une manière, d'après eux, prédictive. Et ils n'ont pas une utilité pour des choses comme... Bon, dans dans l'exemple que tu viens de donner, pas vraiment besoin de symboles logiques. Je dirais que ça, c'est un peu une autre approche qui, pour moi, n'a pas vraiment une explication pour les données que j'ai présentées. Parce qu'eux, ils concentrent plus sur des choses du style métaphorique ou l'usage de concepts avec lesquels on pourrait, nous sommes, donc ils sont plutôt innés, et puis on peut faire de blending avec. Donc ça, c'est une autre approche intéressante, mais je vois pas comment je peux. J'aimerais bien avoir une explication qui vient de leur part sur les données que j'ai présentées, mais je le vois pas.
Mais... Je vais en poser une deuxième et dernière, en tout cas pour moi.
Oui.
Concernant la théorie of mind, la théorie de l'esprit, le test que tu as présenté, je me suis posé une question. L'évaluation qui, si j'ai bien compris, est supposée être indépendante de l'ironie, de la théorie de l'esprit, se fait en regardant une vidéo de quelqu'un qui soulève un paquet, et il faut savoir si il fait semblant de soulever un paquet plus ou moins lourd. Et je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un test de théorie d'esprit un peu plus indépendant de toute dimension d'ironie, parce qu'il me semble qu'il y a, dans cette manière de faire semblant de faire un effort, quelque chose d'ironique en tant que tel. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Comme si on voyait un petit sketch, hein. Ah, là, il fait semblant, c'est drôle ou c'est pas drôle. Est-ce qu'on peut faire des tests de théorie de l'esprit qui n'ont pas du tout cette dimension-là?
En fait, quand j'ai présenté les choses sur les trois approches sur l'ironie, j'ai mentionné deux et j'ai sauté sur le troisième par manque de temps. Et en fait, ce que tu présentes, c'est un peu l'approche de Clark Engerig, qui est la pretense theory, qui dit que oui, les gens, quand l'ironie est basée sur l'idée qu'on prétend. Donc si je dis que fait beau aujourd'hui et il y a de la pluie et bon, c'est fait mauvais, c'est comme si je prétends d'être une espèce de quelqu'un qui fait le météo. Et donc ça, c'est leur approche. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé moyen pour... Bon, Grice n'était pas cognitiviste dans le sens expérimentaliste, mais il y a des débats plutôt théoriques entre le pertinentiste et cette approche de pretense theory. Et on n'a pas encore trouvé un moyen de tester entre les deux. Donc, ton intuition est correcte. Donc, il y a une approche qui soutient ça, qu'on prétend d'être quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est à la base de l'ironie. Bon, merci beaucoup tout le monde.
Merci.